Voilà, voilà. Du coup, Gargantua nous rejoigne sur le plateau de Campus en direct sur Rennes, sur Brest et un petit peu sur Paris avec Station Station. Vous nous écoutez en ce moment pour les 25 ans du Festival Panorama ici à Langolfas. Je vous laisse, messieurs Jean et Antoine.
Ouais, salut le duo Gargantua. Donc à ma gauche, Godefroy.
Bonsoir.
Et toujours à ma gauche, Jean d'Arc.
Tout à fait, c'est bonsoir. Ça.
Alors je précise, Godefroy s'écrit avec un 3 à la place du E et Jean d'Arc s'écrit avec 2-4 à la place des A, façon un peu culture internet. Donc pour présenter un petit peu aux auditeurs, Gargantua c'est un duo chanson techno, on va dire ça grossièrement, on va détailler après dans l'interview. Un duo formé en 2015 à Orléans. D'où vous êtes originaire, il me semble.
Tout à fait, en tout cas, c'est là où on s'est rencontrés.
Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a un Jargeau dans l'histoire ?
Jargeau, c'est dans la région.
Ouais, ouais, puisque le premier morceau de votre premier EP sorti s'appelle donc Jargeau, avec une petite ode à l'andouillette, spécialité locale apparemment.
Tout à fait, ouais, c'est un thème qui nous est cher et qui nous rapproche un peu de la sainte parole de François Rabelais.
Alors bah voilà, on attaque dans le dur du sujet, la sainte parole de François Rabelais. Donc effectivement, votre duo intitulé Gargantua est une référence au personnage de l'œuvre de François Rabelais. Est-ce qu'on peut commencer un peu par ça, en fait, la création de cet univers avec la figure tutélaire de Gargantua? Donc parce que le groupe Gargantua, c'est assez particulier effectivement pour les auditeuristes qui ne connaissent pas. J'ai dit chanson techno, mais c'est vrai qu'il y a un côté dans les paroles assez décalé entre trash, humour, beaucoup de choses en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la création de cet univers? Donc j'imagine vous rencontrez à un moment, vous commencez à faire de la musique, et d'où vient le Gargantua?
Voilà, et ça vient tout d'abord d'une ambition d'apporter à la musique électronique cette dimension vivante, rock et assez étrange et différente à chaque concert. En fait, on était toujours un petit peu triste de voir des disques jockeys qui étaient très distants par rapport au public et qui ne regardaient pas et qui n'interagissaient pas avec. Et donc de la même manière que François Rabelais, par le biais de cette farce vulgaire, apporte des grandes idées de philosophie et des grandes réflexions humanistes, on voulait, avec cette musique techno décérébrée, apporter donc un propos du texte en français, un propos que les gens puissent comprendre, et en même temps danser, s'amuser, et qui est ce côté farce vulgaire avec la techno et le message en texte français.
Ouais, puis une sensibilité, et il y a cette comparaison dans la préface du livre Gargantua de Rabelais, mmh. où Rabelais invite le lecteur comme le chien doit savoir briser l'os pour accéder à la substantifique moelle, il invite le lecteur à faire de même en fait avec son livre, la moelle, l'os étant toute la vulgarité de l'œuvre de Rabelais et la moelle étant en fait toutes les idées humanistes qu'il a logées derrière, et on y a trouvé un symbole de ce qu'on voulait faire musicalement et artistiquement.
Alors, quelle serait la substantifique moelle de Gargantua?
Bah, c'est à l'auditeur de le trouver, c'est au chien d'aller savoir la tirer de l'os et gratter où ça sent le meilleur, quoi.
Très bien, on botte en touche, j'adore aussi. Chanson techno, moi j'ai quand même vu que vous vous étiez rencontrés et un peu réunis autour de la drum and bass.
Tout à fait.
J'ai l'impression qu'elle est quand même relativement absente de votre œuvre musicale.
Pour l'instant. Je pense qu'en fait le projet Gargantua est arrivé au moment où on se désintéressait un petit peu de tous ces breakbeats et drum and bass et toutes ces influences qui ont pu nous réunir et faire du coup le projet tel qu'il est aujourd'hui. Mais on y revient, et d'ailleurs il y a plein de nouveaux morceaux sur le prochain EP qui va sortir et le prochain album avec voilà plus des rythmes dans ce délire là.
Ouais, et puis indépendamment de la drum and bass, en fait ça a été juste notre premier pied dans la musique électronique. Ça a pas été particulièrement dans le genre de prédilection, simplement c'est autour de ça qu'on s'est rencontrés, et puis ça a été le bout de ficelle avant de dérouler toute la pelote musicale qu'on a découverte par la suite avec la techno, avec le hardcore, avec tous les genres de musique électronique dont on s'est nourri et qui viennent aujourd'hui infuser la musique qu'on propose.
Et donc une musique que vous proposé en live, donc un live machine chant. Jean d'Arc, c'est toi qui es au chant.
Tout à fait.
Godefroy aux machines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est venu cette recette finalement, parce que donc on a compris l'esprit de Gargantua, mais la recette live, déjà vous, vos expériences musicales avant, est-ce que toi Godefroy t'as toujours fait des machines ou alors des instruments avant? Jean d'Arc, est-ce que toi tu composes aussi un peu tout ça?
Bah, globalement on fait tout à deux, on écrit et on compose à deux. Je suis le seul à chanter, mais tout le reste on le fait à deux. On a eu différents projets, moi j'ai fait du chant lyrique, Godefroy a eu d'autres expériences musicales. Et c'est vrai que très vite, l'ambition du projet de Gargantua c'est donc apporter cette dimension rock et y a vraiment un spectacle différent de tout ce qu'on peut voir en musique électronique, avec donc un personnage devant, donc incarné par moi, donc Jean d'Arc. Et cette touche de risque et d'incertitude à chaque spectacle, le fait que tout puisse arriver et qu'il n'y ait rien de calé vraiment. En tout cas, voilà, il y a une chorégraphie et tout, il y a un spectacle, il y a toute une performance. On tient à maintenir ce côté risqué et imprévu dans le show. Voilà, en ayant une performance un peu rock et un peu provocante. Qu'on trouve qui manque cruellement à la scène électronique actuelle.
C'est vrai que ça peut manquer à la scène électronique actuelle, mais quand je t'entends parler de cette prise de risque, moi je pense à un des premiers concerts que j'ai fait à Panorama il y a maintenant 12 ans, c'était Sexy Sushi. Est-ce que des groupes comme ça ont pu vous servir d'inspiration dans la création de votre projet?
Ben finalement, en fait, on a découvert ça très très tard, en fait, Sexy Sushi, et c'est un groupe que j'adore maintenant. Mais on peut pas vraiment dire qu'on a été influencé par ce groupe.
Ouais, je pense que si tant est qu'on a une famille, je pense qu'on l'a découverte en ayant commencé par se croire orphelin.
Ouais,
c'est beau. Et alors justement aujourd'hui, quel membre compterait votre famille?
Musique post-bourgeoise, des Immortem.
Ouais, c'est dur à dire. En fait, on se reconnaît dans un aspect d'un artiste et dans un autre aspect d'un autre. Aujourd'hui, personnellement, en tout cas, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait en tout cas déjà quelque chose qui puisse se nommer une scène qui se soit construite autour, ou en tout cas qui comprenne ce qu'on essaye de faire dans la musique. Je pense que ça se fait de manière éparpillée. Mais aujourd'hui, je parlerai ni d'une scène ni d'une famille, je pense.
Je suis plutôt d'accord. En plus, ouais. C'est vrai qu'on a. Enfin, moi, je suis très proche de gens qui font un tout autre genre de musique électronique. Et c'est aussi ça qui nous nourrit et qui fait le genre qu'on fait en réaction à tout ce qui se fait autour de nous et à notre période, à notre époque en fait. On a quand même cette volonté de s'inscrire dans autre chose en fait. Ouais.
Et alors, moi je suis votre projet depuis pas mal de temps, depuis il me semble le tout premier EP qui s'appelait alors comment Coeur, dire, Crochet 3.
Ouais, en fait c'est le troisième EP. D'accord. Il y avait d'abord Sans Plomb 2015, sorti le 1er mai 2015. Ensuite il y avait Diesel, sorti le 1er août 2015. Et enfin donc Inférieur à 3, Coeur, sorti le 1er mars 2016.
Ok, ouais. Et alors, tu as parlé un petit peu, Jean d'Arc, de cet esprit rock. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite évolution dans Gargantua,
ouais,
qui allait de plus en plus vers des références black metal, en tout cas dans la partie image, la partie visuelle de votre projet.
Complètement.
Est-ce que vous écoutez du black metal aussi?
Ouais, un petit peu. Surtout quand j'étais plus jeune et j'ai toujours adoré ce côté grandiloquent, spectaculaire, performance avec des mises en scène macabres et des légendes qui les accompagnaient. Et pareil, c'est quelque chose que je regrette, qui n'existe pas tellement dans la musique électronique, et qu'il y a plus ce grand spectacle des choses mystiques, des choses où on ne sait pas bien le vrai du faux et tout ça. Et ça nous manque, et on avait envie un peu de s'emparer de ces codes et de les faire évoluer avec la nouvelle musique méchante de la période, de l'âge, quoi.
La nouvelle musique méchante.
Ouais.
Ouais, et en même temps, d'un autre côté, on dépeint souvent du métal uniquement la partie violente, là où il y a souvent aussi, pas pour toutes les facettes du métal, mais il y a souvent aussi un aspect extrêmement sensible dans le métal, qui est aussi un des aspects qu'on essaye d'apporter dans ce qu'on fait. quelque chose de dramatique, de presque terrible.
Ouais. Bah justement, Jean d'Arc, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais fait du chant lyrique.
Oui.
C'est vrai que le chant lyrique, on en trouve un petit peu dans tout ce qui est métal. Ça, de temps en temps, ça cohabite. Moi, je me suis demandé justement, en faisant un peu des recherches sur vous, sur votre façon de procéder, sur cette idée de la mise en scène, si par exemple, ça vous brancherait un jour de faire un genre d'opéra techno.
Ouais, on y a déjà pensé, mais c'est vrai que on essaye aussi de faire un genre de musique et des œuvres qui puissent s'inscrire dans notre période et dans la période dans laquelle on sort les disques et les morceaux. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, peut-être que les gens soient un peu trop distraits pour encaisser tout un opéra et tout ça. Mais j'adorerais, hein, évidemment, c'est un fantasme, comme beaucoup d'autres groupes, de faire un Phantom of the Paradise version Gargantua. Mmh. Mais je sais pas si aujourd'hui ça serait bien reçu.
Ouais, peut-être un jour.
Peut-être un jour. Ouais. Bah, on peut peut-être parler de ce qui arrive prochainement, en tout cas pour Gargantua. Ah, attendez, j'ai perdu une petite question quand même avant ça.
Ouais.
Justement sur cette idée de faire de la mise en scène, de faire. J'ai l'impression que ça passe pas mal par notamment l'écriture des textes. Ça, c'est aussi quelque chose que vous faites à deux.
Tout à fait. Ouais.
Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça? Moi, je pense par exemple au dernier morceau sorti qui s'appelle donc
La mort avec toi.
Voilà. Donc avec un petit jeu Eros Thanatos qui n'est pas pour me déplaire. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Quels sont les sujets que vous voulez principalement aborder, ou alors la forme que vous voulez que prennent vos textes?
Bah déjà, c'est vrai qu'en fait chaque morceau est écrit avec une méthode différente. Il n'y a jamais vraiment de règles et de modus operandi réguliers. Et voilà, des fois les chansons arrivent subitement et tout le texte on l'écrit d'un coup. Alors des fois on laisse un couplet en jachère pendant 3 ans, après on le reprend et on le sort dans les 6 mois. En fait, tout est possible. Et il y a vraiment la volonté aussi de pas donner un message clair et de laisser au public l'interprétation qui lui touche et qui résonne avec chaque personne.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment. Je pense que ce qu'on essaye surtout de ne pas faire, c'est arriver avec un prêt-à-penser. En tout cas, c'est pas le rôle qu'on veut se donner musicalement et artistiquement. Et il y a souvent, en tout cas, je pense, cette volonté de poser des sujets embarrassants sur la table et de laisser chacun et chacune se positionner face à ces sujets en pour, en contre, en mitigé.
Et alors, c'est pas forcément quelque chose qui était là dès le début, parce que c'est vrai que quand on pense à vos premiers morceaux, donc notamment l'Aude à l'Andouillette de Jargeau ou le Requiem des Escargots qui est dans le même EP, on sentait quelque chose de musicalement assez proche, mais dans l'esprit peut-être beaucoup plus déconne. Et aujourd'hui, quelque chose de plus viscéral peut-être, je me trompe?
Ouais, il y avait déjà du viscéral dans l'Andouillette de Jargeau et puis aussi dans le Requiem des Escargots.
Ouais.
Dans cœur, le titre éponyme, mais c'est vrai qu'en tout cas ça s'est précisé et à force de faire des morceaux, à force de créer Gargantua, de travailler Gargantua, on s'est rendu compte que ouais, on voulait peut-être s'orienter vers quelque chose de plus sérieux qui était déjà présent avant et on n'a vraiment pas envie de faire une blague en fait.
Ouais, vraiment pas. Et je sais pas, par exemple, si on prend un de ces exemples-là, le Requiem des Escargots. Je pense que ceux qui l'ont vu en live repartent pas du tout de ce morceau avec l'idée que c'est une blague. Enfin, je veux dire, je pense que d'une manière générale, même dans les sujets, il y a manifestement des morceaux de Gargantua qui peuvent être drôles. En fait, on n'essaye pas de faire quelque chose qui n'est pas drôle. Mmh. On essaye vraiment de faire quelque chose qui soit surtout pas une blague, et c'en est jamais une. Le Requiem des Escargots, si on en parle, c'est un morceau qui est tragique, qui est d'une violence immense. C'est peut-être un des morceaux les plus violents de Gargantua, je pense. Je sais pas. qu'est-ce que t'en penses?
En tout cas, ceux qui sont déjà sortis, oui. Il y en a d'autres à venir.
Il y en a d'autres à venir, des
tout à fait.
De bien violents.
Et du coup, ça nous amène à votre autre question sur
la prochaine
sortie, je me permets. Là.
Tu permets de diriger l'interview, j'adore.
Et ben, du coup, on a signé avec Pias récemment.
Ouais.
Voilà, alors, label Pias.
Petit focus, label Pias, moi je connaissais de nom, alors c'est vrai que je connaissais de nom, mais c'est tout. Et en travaillant cette interview, je me suis rendu compte quand même que Super Discount de Étienne de Crécy, The Man with the Red Face de Laurent Garnier, Analog Worms Attack de Mister Oiseau, c'est un sacré label, quoi. C'est un sacré bout d'histoire des musiques électroniques. J'imagine que pour vous, ça devait être. Parlez-moi de ça.
Carrément, on est très heureux.
Ouais, non, on est très très heureux. C'est vrai que c'est. On a toujours fait tout seul et on pensait continuer comme ça pendant encore longtemps et, sans que ça nous pose vraiment problème. Et là, il y a eu cette proposition et c'est avec plaisir qu'on rejoint l'équipe Pias et qu'on sortira du coup un EP et un album probablement chez eux.
Super, est-ce qu'on a déjà des idées de date pour ces EP et albums?
Oui, à peu près, oui, complètement. Donc l'EP sortirait en septembre-octobre, à la rentrée globalement, et puis l'album en 2023, courant 2023.
Ok, il est encore à enregistrer, il est encore à composer peut-être.
Ben en fait, on a un certain stock de morceaux qu'on évolue et qui évoluent plus vite que d'autres et que d'autres qu'on laisse en jachère encore une fois voilà, depuis quelques années. Et non, il y a une bonne partie même de l'album qui est prête complètement.
Alors justement, le passer à un format album, c'est quelque chose de légèrement différent de bah, vous aviez fait des albums déjà qui étaient
ouais à peu près des 9 tracks.
Ouais, des 9 tracks. Oui, c'est ça, ouais. Et est-ce que là vous avez un grand projet pour ce premier album peut-être, ou vous pouvez nous teaser un peu là-dessus?
Non, je pense que chaque sortie, chaque disque, que ce soit un EP, un 9 tracks ou alors un album, à chaque fois c'est une aventure, c'est un ensemble, c'est une œuvre totale quoi.
Ouais, et puis jusqu'ici en fait les EP qu'on a fait précédemment étaient pas non plus vraiment des EP, c'est-à-dire que c'était des 7 titres, c'était le format le plus bâtard qu'on puisse trouver à l'image de la musique qu'on fait, qui est aussi difficilement classable. Et je pense qu'on n'a jamais, en tout cas, c'est vrai que pour certains artistes, il y a ces EP qui sont toujours prémonitoires d'un album et qui sont. Pour certains en tout cas, des fois ça peut donner la sensation que c'est une sorte de mise en bouche de l'album à venir. Et je pense qu'en tout cas, on n'a jamais pris nos EP comme ça. Finalement, c'était plutôt des mini-albums de 7 titres et qui étaient vraiment pensés pour ce qu'ils étaient, comme un opus à part entière.
On va peut-être les citer. J'ai pas tout noté, désolé. Le dernier, c'est Héritage, qui est sorti en juin.
Décembre 2019. Il y avait G-Fin.
G-Fin en décembre 2019.
En juin 2019 et ensuite Héritage en décembre 2019. Ouais. Et ensuite fin du game.
Voilà.
À la fin du premier confinement. Autour de ouais, c'était mai-juin.
Juin 2020.
Ouais, 2020. Ouais. Du coup, ouais, ça.
Et donc, on me dit que l'interview doit s'arrêter malheureusement. Juste un petit mot, donc peut-être cette signature sur Pias est en partie due à votre récent accompagnement par Wart, qui sont donc les organisateurs de Panorama. Je sais pas, c'est eux qui ont arrangé ça ou
Alors c'est pas vraiment un accompagnement. En fait, Wart est le producteur du spectacle de Gargantua.
D'accord.
Donc voilà, c'est notre tourneur et producteur de spectacle. Et par contre, effectivement, il y a un accompagnement qui est celui de l'Astrolabe à Orléans.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est toute l'équipe de l'Astrolabe et de la Fracama, donc tout ce réseau. Ont vraiment énormément aidé en fait en nous accueillant pour faire des résidences pour affiner le spectacle voilà.
Et alors du coup peut-être un tout petit mot de teasing pour les gens qui vous verraient peut-être ce soir à Panorama ou demain au Repercussound.
Dimanche Repercussound. Yes.
Dis-moi à quoi il faut s'attendre en arrivant devant Gargantua en concert?
Bah une gifle à quelque chose de spectaculaire, dérangeant et dansant, troublant.
Est-ce que ce soit exactement ce à quoi on ne s'attend pas?
Parfait, je n'aurais pas quoi ajouter de plus. Merci beaucoup Godefroy et Jean d'Arc. On vous retrouve ce soir, c'est au Chapiteau.
tout à fait.
C'est ça, c'est sous chapiteau. Ouais. J'ai le line-up sous les yeux là.
Un grand merci, et puis on a hâte de vous revoir sur d'autres scènes aussi un peu partout en France.
Avec grand plaisir.
Bonne route, messieurs.
Merci.
Merci pour votre accueil.